Moi, j'arrive à une période de ma vie militante, on va dire, et politique, où j'ai envie de le faire. J'ai vraiment envie qu'on participe à l'amélioration, à notre mesure, hein, mais de la vie quotidienne des Angevines et des Angevins. Et je pense qu'on peut faire un certain nombre de choses concrètes.
En Dégavinus, Politicus, le podcast pour entendre les personnalités angevines qui font le choix de l'engagement politique pour défendre leurs convictions citoyennes et démocratiques. Députés, sénatrices, conseillers municipaux ou représentants de partis, 30 minutes pour s'intéresser à leur parcours et leurs engagements. Découvrez le profil de ces hommes et de ces femmes qui font vivre la démocratie angevine. Romain Lavaux, bonjour.
Bonjour.
45 ans, professeur des écoles, écologiste convaincu, bien évidemment, conseiller municipal de 2008 à 2014 et même conseiller communautaire de 2011 à 2014 à la ville d'Angers. Par ailleurs, candidat aux législatives en 2012 et 2017 et même une petite expérience, une petite tentative au conseil départemental, c'est la plus récente, la dernière en date en 2021, me semble-t-il. Et la grosse actualité, Romain, en ce moment, vous êtes le candidat à la gauche pour les municipales à Angers en mars 2026. Romain, parlons de vos convictions écologistes convaincues, ça c'est sûr. On ne lâche pas, on éteint la lumière quand on quitte une pièce, toujours chez Romain Lavaux.
Oui, oui, et c'est des réflexions qui existent depuis en fait assez longtemps. Et c'est vrai que c'est une anecdote que j'avais racontée, mais je pense que ça vient au moins de là. Ça, c'est quand j'étais en CE2. J'avais proposé dans ma classe d'organiser un vote autour de l'élection présidentielle et des candidats qui s'y présentaient. Et ce que je n'ai pas dit d'ailleurs sur l'interview que j'avais donnée, c'est que je suis allé un peu plus loin que ça. En fait, c'est que j'ai fait campagne pour Antoine Wächter et qu'Antoine Wächter a gagné. Donc voilà, il y avait déjà cette conviction qui était forte à l'époque. À la fin de cette élection, d'ailleurs, mon institutrice nous avait dit « C'est très bien, Antoine Wächter a gagné, donc maintenant, vous allez faire attention sur la cour et de ça, vous ramassez bien les déchets. Bon, » c'était le petit clin d'œil, mais il y avait vraiment cette préoccupation-là qui vient du fait, je pense, que j'étais passionné d'histoire et de géographie assez tôt et d'une conscience un peu de ce qui pouvait se passer autour dans le monde avec l'actualité. Des pays où c'était très compliqué, où il y a la dictature, où il y a des gens qui ne vivaient pas correctement. Et puis des enjeux environnementaux qui commençaient à faire la une quand même déjà à l'époque aussi, depuis quelques années d'ailleurs, et qui semblaient être vraiment l'enjeu. Je me disais, enfin voilà, il faut vraiment qu'on se mobilise là-dessus, ce n'est pas possible de continuer comme ça. Et en fait, ça, c'est resté au niveau des valeurs. C'est ces trois piliers-là, démocratie, justice sociale et puis urgence environnementale et climatique, c'est resté vraiment des piliers pour moi.
Vous aviez quel âge ?
Là, j'avais 8 ans. C'est à partir de cette époque-là où je me suis vraiment ouvert et commencé à me passionner pour le journal télévisé notamment. Enfin, on avait le journal de temps en temps aussi. Enfin, j'étais à l'affût de tout. Je faisais même mon propre journal de temps en temps qui recompilait des articles qui s'appelait Le Citoyen aujourd'hui. Ça fait 2-3 numéros que je mettais sur ma porte de la chambre, mais il y avait vraiment cette préoccupation citoyenne et qui était là, quoi, très tôt.
C'est-à-dire que dès le départ, en fait, il y avait le côté citoyenneté, démocratie aussi, et puis humain et environnement, tout était déjà dès le départ ensemble. Il n'y en a pas un qui a pris plus le pas que l'autre ou qui est arrivé avant.
Il y a vraiment ces préoccupations-là. Je dirais que la préoccupation environnementale était vraiment très très forte. Voilà, parce que ça me semblait vraiment être ce qui se jouait globalement. Je me disais, enfin. Voilà, au niveau humain, etc., il y a plein de progrès à faire, mais ça, il y a des pays qui y arrivent, etc. Alors que là, on a un enjeu face à nous qui est mondial et que personne ne maîtrise tout seul et qui est flippant en vrai. Je pense qu'il y a une forme d'éco-anxiété déjà qui existait là-dedans et pas que chez moi. Et effectivement, ça restait du coup très prégnant.
Et aujourd'hui, si on parle vraiment de l'écologie, des catastrophes, tout ça, qu'est-ce que ça provoque en vous? Quelle réaction par rapport aux inondations, aux incendies? On parle d'éco-anxiété, ça ne fait que croître en fait.
Oui, alors après, c'est pareil, faire le distinguo, il y a toujours eu des catastrophes naturelles. Le problème, c'est que ça s'amplifie, ça prend une ampleur quand on regarde les méga-feux depuis quelques années ou les situations vraiment de sécheresse, canicule qu'il y a dans certaines partie du monde et même dans le sud de la France, je pense autour de Perpignan où vraiment il y avait l'alimentation en citerne d'un certain nombre de communes, etc. Ça, c'est quand même toujours hyper préoccupant et moi, ce qui me fait peur, c'est que parfois on a tendance à banaliser, à se dire de toute façon, ça va être comme ça et puis il faut faire avec et tout. Ben non, en fait, faut se mobiliser justement pour le limiter le plus possible, parce que les années qui viennent, dans les années qui viennent, ça va potentiellement s'amplifier, parce qu'il y a un laps de temps entre les mesures qui sont prises et puis des effets potentiels pour réussir à calmer la dynamique de réchauffement, d'effondrement de la biodiversité et les résultats. Mais tout ce qu'on fait pas maintenant, on va le payer encore 10 fois plus cher plus tard, quoi.
En tout cas, à 8 ans, tout était là. Il y avait cette idée de regrouper les idées, de les partager, de défendre des causes aussi. Alors souvent, quand on est enfant, voilà, on a des idées en tête, on veut faire un petit peu comme les grands d'une certaine façon. Une fois devenu grand, vous avez continué, puisqu'en 2002, si on fait un petit bond dans le temps, même s'il a dû se passer des choses entre-temps, vous avez rejoint Greenpeace. Parlons de cette expérience, de cet engagement militant. Déjà, qu'est-ce qui a pu motiver, vous étiez déjà à Angers, hein, depuis l'an 2000, je crois. Qu'est-ce qui a motivé cet engagement, cette signature de contrat avec Greenpeace?
J'étais sur la fin de mes études. Je commençais à regarder un petit peu ce qui se passait au niveau politique, mais je n'en voyais pas forcément tout de suite la traduction concrète localement. Parce qu'en fait, c'est d'abord un engagement local quand on rejoint un parti. Alors qu'avec Greenpeace, on avait des campagnes qui étaient menées au niveau global, national. Et il y a un état d'esprit qui m'a toujours intéressé, qui est d'être un peu dans l'agite propre, de chercher des moyens de mobilisation qui fassent réagir le grand public sur des thématiques fortes. Et localement, en fait, j'ai appris à connaître un des animateurs de l'époque. Et c'était ces années-là où on commençait vraiment à se positionner face au risque des OGM. Et donc, moi, j'ai suivi sur ce terrain-là et localement, il y a un collectif qui s'est mis en place. C'est un peu après 2002, mais ça s'appelait Nos campagnes sans OGM, qui localement fédérait les faucheurs volontaires, la Confédération paysanne, un certain nombre d'associations. Et donc, moi, j'ai participé avec d'autres au repérage de champs qui pouvaient potentiellement être fauchés. Et on trouvait ça hyper important de se mobiliser contre à l'époque. On demandait le moratoire qui a eu lieu, hein, d'ailleurs. Ça a été une victoire, notamment de Greenpeace, mais pas que. Mais c'est intéressant aussi de garder en tête les victoires, parce qu'il n'y a pas toujours que des défaites, il y en a aussi, mais aussi parfois des victoires. Et en France, on a pendant longtemps réussi à échapper aux OGM grâce à cette mobilisation-là.
Greenpeace, oui, évidemment, qui fait référence dans l'engagement militant en faveur de l'environnement. En tout cas, un point de bascule a fini par s'opérer, puisque du coup, vous avez fini par vous engager en politique. Alors, il me manque un jalon dans la biographie. Je n'ai pas réussi à trouver précisément quand et comment, mais à un moment donné, comment s'est fait la bascule entre le militantisme et vraiment l'engagement politique? Vous avez rejoint un parti, peut-être?
Oui, c'est ça. En fait, il y a eu plusieurs temps, mais c'est vrai que ça s'est vraiment concrétisé au moment où j'étais déjà, moi, plus fixé aussi professionnellement, parce que quand on est étudiant, on ne sait pas si on va rester dans telle ou telle ville, etc. Donc, il y avait ça. Et puis, en 2005, il s'est passé deux choses qui étaient importantes. C'est le moment où j'ai adhéré au Vert. Il y a eu le traité sur le projet de constitution européenne. Et puis, il y a eu une augmentation des prix du pétrole assez forte à ce moment-là. Et puis, pas mal de questions qui se posaient autour de ça. Et c'est un peu la conjonction des deux, en fait, qui m'a amené à franchir le pas. Voilà. Sur l'Union européenne, j'ai un ami qui était polonais, qui regardait nos débats et disait... Enfin, puis on échangeait. Moi, je me posais beaucoup de questions. Et il me disait, je vois bien, oui, au niveau social, le compte n'y est pas. Il y a plein de choses qui sont vraiment améliorées. Mais si vous dites non, ça veut dire pour nous, Polonais, Europe de l'Est, qu'en fait, vous ne voulez pas de nous. Parce qu'on vient tout juste de rentrer dans l'Union européenne. Là, il y a un projet pour avancer ensemble. Et en fait, là, vous diriez non, quoi. Et ça m'avait quand même chatouillé. Je me disais, il y a quand même cette Europe qui se réunifie. On ne peut pas passer à côté. Et c'était un argument très fort pour quand même voter oui. Et puis, sur cette augmentation du prix du pétrole, je me disais, voilà, il y a aussi quelque chose qui se joue là, et c'est le moment de passer un peu à l'acte, quelque part, et d'aller au-delà des discussions avec les copains, où on répète à peu près les mêmes choses, mais où, en fait, on ne concrétise pas grand-chose non plus, quoi.
C'est une transition évidente, quand on a des convictions, de glisser vers la politisation de ces idées?
Pas forcément. Il y a plein de façons de s'impliquer, vraiment, là-dessus. Chacun a sa façon aussi, je pense, de s'engager. Et il y en a énormément. Quand je vois le travail que font certains amis au niveau associatif sur des associations sportives ou qui vont simplement prendre du temps pour aider les voisins ou pour aider les plus anciens. Je veux dire simplement dans le sens où c'est juste autour de soi, mais c'est hyper important. Et tout ça est important. Après, la politique est souvent dévoyée et j'y vois quand même un outil dans les partis politiques qui reste hyper intéressant parce qu'on peut y faire plusieurs choses. C'est présenter des personnes aux élections pour essayer de changer les institutions. Et ça me semble quand même fondamental aujourd'hui, même si on peut considérer que ça peut pas tout et c'est parfois décevant. Il faut bien l'accepter et on le constate. Il y a aussi des outils juridiques qu'on peut développer, et avec le parti politique notamment, enfin avec les Verts sur Notre-Dame-des-Landes ou sur différents dossiers, on a pu avoir des victoires sur le plan juridique et faire stopper des projets grâce à ça. Et puis il y a aussi ce qui est la mobilisation aussi que font les associations, mais les mobilisations coup de poing, les interpellations, tout ce travail qui, on va dire, de terrain, dans la rue, etc., au contact, les coups d'éclat. Et on peut faire les trois, en fait. C'est un outil qui est hyper diversifié et qui reste très pertinent, je trouve, aujourd'hui.
Alors, si on poursuit sur si on tire ce fil de l'engagement politique, votre engagement politique, Romain Lavaux, on va parler d'abord de démocratie, peut-être le regard que vous portez sur la démocratie française, sur on parlera tout à l'heure de vos expériences, mais en France, on a une démocratie efficiente, représentative, qui permet justement d'aller bousculer les institutions quand le peuple, d'une certaine façon, la société le demande. Est-ce que, par rapport à ce que vous imaginiez de la démocratie en 1988, à l'âge de 8 ans, finalement, à la pratiquer un petit peu, est-ce que votre regard a changé? Il est plutôt positif, optimiste? On peut changer des choses? Est-ce que ça marche bien?
Alors, est-ce qu'on peut changer des choses? Oui, je le pense réellement, et on peut le constater dans un certain nombre même de collectivités autour d'Angers. Mais même à Angers, il y a des choses qui vont dans le bon sens aussi, je serais malvenu, voilà. Il y a certaines qui ne vont pas dans le bon sens, mais d'autres oui. Donc, localement, on voit l'impact d'une action politique, je trouve, plus facilement en fait qu'au niveau global. Ou au niveau global, que ce soit à l'échelle nationale, européenne, voire au-delà, entre le temps où on annonce des décisions et puis le temps où on a un réel impact politique, il se passe un certain nombre de choses. Parfois, ce n'est même pas traduit d'effet du tout. Enfin, bref, il y a un certain nombre de questions à ce niveau-là. Et voilà, au niveau national, moi, je pense vraiment qu'il faudrait changer de constitution. J'y avais travaillé avec plusieurs au sein des écologistes pour le programme de Yannick Jadot en 2022. Il y a vraiment des choses à renouveler. Enfin, sur la représentation, sur le fait aussi de proposer des référendums ou des votations citoyennes qu'en Suisse plus régulièrement, que les citoyens eux-mêmes, ça c'était une demande des Gilets jaunes, mais qui était tout à fait, pertinente, c'est que les gens ont besoin aussi de se sentir impliqués et qu'on ne soit pas dans des annonces ou qu'on demande leur avis juste au moment des élections, puis après on n'en a un peu rien à faire. Enfin, c'est quand même un sentiment que partagent beaucoup de personnes qui ne vient pas de nulle part. Donc il y a vraiment quelque chose à travailler de ce côté-là. Après, au niveau local, j'ai envie de dire, on a à peu près les outils pour faire tout ça. Donc on va avoir des disparités d'une collectivité à l'autre, mais si on veut avoir une gouvernance, une façon de gouverner une ville plus participative, plus représentative, on en a les moyens. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire, là, au travers du rassemblement qu'on est en train de constituer, dans la façon qu'on a de faire notre rassemblement, de faire campagne, d'avancer ensemble. Et c'est ce qu'on a envie de faire aussi au niveau de la ville, en fait.
Si on parle de la politique, de l'exercice même de l'action politique quand on est élu, ou alors quand on est vraiment dans cette perspective d'être élu, et puis ensuite d'administrer un territoire, un groupe, une société, la question que j'avais, c'est quand on est écolo, est-ce qu'on passe forcément à gauche? Est-ce que c'est la couleur évidente politiquement si on a des citoyens qui se sentent concernés par cette question de l'environnement et de l'écologie, est-ce que politiquement, on passe forcément à gauche?
Il y a deux choses, en fait, et c'est des discussions qu'on a parfois avec les amis écologistes. On peut être environnementaliste et se préoccuper de bien trier ses déchets, de se dire que c'est une catastrophe, des espèces naturelles qui disparaissent, sur un certain nombre de choses, en fait. On a des personnes qui ont cette sensibilité-là, et c'est très bien, parce qu'on a besoin de ça pour résister face à ce qui se passe. Après, l'écologie politique, en fait, c'est une pensée globale. Et dans cette pensée-là, en fait, il y a le souci de la planète, évidemment, mais il y a le souci de l'espèce humaine globalement aussi. Et à l'intérieur de ça, c'est comment on fait société. Mais on fait société si on considère que... gagner 100 fois plus que son voisin, c'est pas normal. on fait société si on considère que la justice sociale, c'est une valeur qui est fondamentale. Voilà, si aussi on estime que, ben, en termes de démocratie, on demande l'avis à tout le monde et on le prend fortement en considération en estimant que c'est hyper important, ben c'est quand même un certain nombre de choses qui font un corpus politique qui est l'écologie politique. Je fais court et il y en a d'autres. Hein. Voilà, c'est la lutte contre les discriminations, le fait que, ben, tout le monde puisse se sentir bien dans une société, l'ensemble des minorités, visibles ou non. Voilà, c'est vraiment une pensée d'ensemble. Donc oui, moi je considère quelque part que, et je ne suis pas le seul, on rattache l'écologie politique à la gauche parce que, ben, on est plus proche d'un certain nombre de valeurs qui font de la gauche et on y apporte, je pense, une pierre supplémentaire en fait, à cet édifice-là.
J'ai essayé de rechercher sur France Travail ou sur des organismes privés s'il y avait des formations pour devenir politicien. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'école de la politique. Comment on apprend à faire de la politique? Comment on apprend à dialoguer, à être conseiller municipal, communautaire? Comment on apprend ces choses-là? On apprend sur le tas ou on se forme auprès de mentors?
C'est une très bonne question. Je pense que d'abord, il y a le souci d'intégrer quelque chose de collectif et de porter sa parole. Et ça, je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont des idées et qui ont ce souci-là, mais qui ont parfois soit savent pas trop comment le faire, soit aussi sont un peu plus réservés et n'osent pas porter leur parole. Et c'est important qu'on ait des cadres où justement on peut accueillir cette parole et laisser les personnes s'exprimer. Et là-dessus, je pense qu'il y a encore des avancées à réaliser. Après, il y a un certain nombre de codes, en fait, moi, j'avais personne dans ma famille qui faisait de la politique. Hein. Je suis allé toquer à la porte des écologistes en 2005. On m'a accueilli avec bienveillance. Au départ, j'y comprenais rien, moi, réunion. Je m'attendais à avoir des discussions sur les grands sujets du moment. J'en parlais du pétrole, etc., de la Constitution européenne. Ils me parlaient de personnes qui étaient adjointes à la voirie ou adjointes au sport ou de tel ou tel sujet. Je connaissais personne, moi, à l'époque. Enfin, je ne connaissais pas les élus angevins, ce n'était pas du tout ma sphère. Et j'étais un peu paumé. Donc, à la fin de la réunion, s'il n'y avait pas eu quelqu'un pour me dire bah, « Alors, c'est passé comment? Qu'est-ce que tu en penses ? Et puis, qu'est-ce qui t'intéresse ?» Je ne sais pas si je serais resté forcément très longtemps. Donc, il y a cet accueil-là. Le parti peut être un outil formidable pour accueillir, les associations citoyennes aussi, hein. Mais il y a besoin de ce lien aussi, parce qu'il n'y a rien d'évident. Et puis, plus on progresse à l'intérieur... dans les discussions, parce qu'on s'intéresse voilà, à la vie politique locale ou même au-delà, on voit qu'il y a quand même un certain nombre de codes, un certain nombre de choses à savoir, de façons de faire, qui sont assez précises, mine de rien. Et donc, il faut les connaître. Après, on adhère ou pas à ces codes-là, mais il faut les connaître et pour avancer et pour porter une parole à l'intérieur de ça. Voilà.
Ce sera l'objet de la dernière question de l'ouverture avant de se quitter, Romain, parce que finalement, il n'y avait pas forcément de discussion de fond. On était aussi beaucoup dans la forme de l'exercice du jeu politique. Mais avant de parler de tout ça, est-ce qu'il y a une expérience ou des personnalités qui vous ont marqué au cours de cet engagement politique dans le parti ou bien en tant que conseiller municipal?
Alors, dans le parti, je dirais que c'est Cécile Duflot qui m'a beaucoup marqué et qui est aussi une des raisons de mon engagement à cette époque-là. Parce que j'y voyais quelqu'un qui avait un discours qui était très clair, qui était volontaire, un peu comme Marine Tondelier aujourd'hui en fait, hein, accessible et qui perdait pas de sa radicalité tout en étant ouvert à la discussion. Et ça c'est hyper important parce que je pense qu'il faut rester radical sur un certain nombre de sujets, parce que, je le disais, la hauteur de l'enjeu fait qu'il faut vraiment qu'on bouge des choses, faut qu'on soit tous prêts à faire des pas. Mais on emmènera les gens que si on est dans un cadre qui est ouvert, qui est dans la discussion, qui a conscience du fait que bah, pour un certain nombre de personnes, c'est pas évident de bouger non plus, qui est dans cette justice sociale, etc. On ne peut pas être trop clivé, trop clivant, parce que si c'est pour perdre tout le monde, au final, on n'aura pas fait avancer la cause, quoi. Donc, il y a ça. Après, au niveau local, il y a des copains écologistes qui portent des combats qui sont vraiment formidables au niveau local. Il y en avait à cette époque-là, quelqu'un comme Chantal Mathieu sur l'accueil des migrants, par exemple, qui n'est pas forcément quelqu'un de très connu, mais qui localement fait un travail qui est formidable. Dans le monde associatif, il y a des personnes comme ça qui font avancer des causes et qui passent un temps hallucinant. Et c'est un travail de fourmi, mais qui est tellement nécessaire, quoi.
On va parler de l'avenir dans quelques instants, les perspectives qui s'ouvrent à vous. Mais avant tout ça, je reviens sur cette séquence de 2008 à 2014 en tant que conseiller municipal sous Jean-Claude Antonini, l'ancien maire de gauche d'Angers, avant l'élection de Christophe Béchu, donc en 2014, plutôt orienté à droite. Est-ce qu'il y a des souvenirs précis de cette époque? Comment on concilie? Parce que vous êtes aussi professeur des écoles par ailleurs. Donc c'est quand même, on parle d'engagement citoyen, là on est en plein dedans finalement.
Oui. Oui, et c'était une première expérience qui était très très enrichissante d'être participer en fait à l'élaboration d'une politique en étant au sein d'une majorité. Donc c'est un projet qu'on avait préparé de notre côté, nous les écologistes. Après c'était une discussion avec notamment le Parti socialiste. Hein. Donc il y a des sujets qu'on a pu faire avancer et dont on peut se réjouir. Et il y en a d'autres sur lesquels on suivait un petit peu moins et c'est normal. Enfin c'est un compromis. Je pense qu'il faut savoir choisir ses batailles là encore. Donc sur les transports en commun à l'époque avec la première ligne de tramway, mais aussi toute le passage de la ville en A30 quasiment, à part sur les grands axes. À l'époque, c'était quand même assez nouveau. Ça s'est fait dans plein de villes depuis. Moi, j'ai beaucoup participé avec Vincent Dulon, qui était l'adjoint à l'époque à la voirie. Et le choix de le faire en plus, moi, je le trouvais intelligent parce qu'on l'a fait vraiment en concertation avec les conseils de quartier. Il y a des choix que nous, on aurait fait qui n'ont pas été retenus par les conseils de quartier. Parfois, c'était l'inverse. Donc, j'aimais bien l'approche qu'avait Vincent Dulon là-dessus, qui n'était pas dogmatique, qui était de présenter les choses, de prendre le temps et puis de faire aussi, parce qu'il y a une expertise de la part des citoyens sur plein de sujets. Et ça, c'est très riche, en fait. Quand on arrive bien à mener la discussion et à confronter les points de vue, on avance bien. Donc ça a vraiment été dans les bons moments. Il y en a eu pas mal. Globalement, je pense qu'il y a un bilan qui est intéressant. Après, comme tout bilan, il y a des choses que nous, on a moins soutenues. Il y avait un projet de rocade au sud d'Angers à l'époque. On s'est mobilisé fortement contre, on s'en cachait pas, on assumait. Voilà, on a eu plus de réserves parfois sur un ou deux projets, comme le fait de faire un nouveau centre des congrès à côté du quai. On n'y voyait pas une priorité en termes d'investissement, là où on pensait déjà qu'il fallait plus isoler, faire encore plus de place au vélo, aux piétons dans la ville, et puis sur le logement social plus globalement, etc. Donc voilà, on pouvait avoir des nuances. Il faut faire la part des choses. Et il faut voir après, c'est toujours une... La politique, c'est une question aussi de rapport de force. Enfin, il ne faut pas fuir ça existe. Donc voilà, à cette époque-là, on était plutôt... le Parti Socialiste était plus fort. Là, on ouvre une période où on a un peu plus de poids. On fait les choses ensemble, et puis on va ajuster aussi. Et je n'ai pas la prétention de dire que ce qu'on fera sera parfait. Mais si on veut être à la hauteur des échéances, il faut quand même regarder les choses de près. Il faut vraiment qu'on soit pertinent et qu'on travaille en fait, quoi, pour faire avancer la ville vers un nouveau modèle où justement on est à la hauteur de cette transition écologique, où ce n'est pas juste du vernis de communication ou un petit truc par-ci, par-là. Et pareil pour la justice sociale, quoi, parce que la pauvreté à Angers, c'est quand même pas rien aussi aujourd'hui, avec 21% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Là aussi, on a une vraie question, une fragilisation qui a eu lieu ces dernières années, avec de l'inflation, avec une précarité au travail. Et ça, il faut qu'on travaille dessus, parce que dans le pacte social global à l'échelle d'une ville, c'est hyper important.
Bon, je remarque qu'à chaque fois qu'on évoque des souvenirs, finalement, les souvenirs sont pas si lointains que ça. Ils résonnent avec des choses qui vont arriver, que là, dans votre esprit, vous êtes déjà peut-être tourné vers mars 2026 avec cette élection municipale. Justement, dans cette perspective, Romain Lavaux, qu'est-ce qui vous anime? Comment on se sent? Comment on se motive? Parce qu'on est conscient de tous les échecs, mais on veut encore porter des combats, j'ai l'impression.
Mais complètement. Enfin, moi, j'arrive à une période de ma vie militante, on va dire, et politique, où j'ai envie de le faire. J'ai vraiment envie qu'on participe à l'amélioration à notre mesure, hein, mais de la vie quotidienne des Angevines et des Angevins. Et je pense qu'on peut faire un certain nombre de choses concrètes. On ne va pas tout révolutionner. Là-dessus, je n'ai pas... Voilà. Mais je suis conscient. Mais on peut vraiment changer des choses. Et la politique qu'on mènera ne sera pas la même que celle qui est menée aujourd'hui. J'en suis persuadé aussi. On est fort d'un beau rassemblement à gauche avec plein de personnalités, des familles politiques qui sont complémentaires. Un engagement citoyen qui est fort aussi, parce qu'on a plus de je pense qu'on approche les 1200 inscrits là, sur l'association Demain Angers. Et c'est ça qui me porte aussi. C'est vraiment ce travail collectif-là. Et on en a besoin. Enfin, on a vraiment besoin de se projeter sur des choses qui sont positives et se travailler ensemble. J'espère que c'est un début et qu'on va pouvoir proposer un vrai beau projet pour la ville pour les années qui viennent.
Bon, les convictions, on n'en manque pas. On parlait tout à l'heure justement de ce jeu politique, voilà, la nécessité de fédérer au-delà aussi de son propre camp. Une fois qu'on est élu, qu'on doit administrer un territoire, si on parle du vélo, de la voiture, puisque c'est des souvenirs qu'on évoquait par rapport au dernier mandat précédent il y a quelques années maintenant, ouais, à Angers, ça fait toujours débat. Ça, on a l'impression qu'il y a des deux France qui s'opposent, celle de la voiture, celle du vélo, celle de l'environnement, celle de pas de l'environnement. Est-ce qu'on... Quand on doit fédérer, quand on doit composer avec tout le monde, est-ce qu'on n'est pas obligé de renier un petit peu sur ses convictions profondes ?
Oui et non. Moi déjà, je pense qu'on peut toutes et tous le constater, dans une discussion interpersonnelle, quand on prend le temps d'écouter le point de vue des autres sur le fait qu'ils vont nous dire, par exemple, si on prend voiture vélo ou voiture piéton, etc. Déjà, les choses ne sont pas forcément si clivées que ça, mais... on va avoir des personnes qui disent bah « Oui, mais moi, j'ai besoin de ma voiture pour aller travailler. Sur le trajet, je vais déposer ma fille. Enfin, et c'est compliqué de faire autrement parce qu'il faut que je sois à telle heure. Et puis le matin, ma fille a besoin de dormir, ce qui est normal. Enfin, » Mais en même temps, je comprends. Enfin, il y a sûrement des choses à faire pour aller à vélo. Ou faire... Et quand on prend les choses tranquillement comme ça, plutôt que de braquer les gens en disant « Mais enfin, c'est bon, c'est fini la voiture, il faut arrêter. » je pense que c'est beaucoup plus payant d'avoir une personne qui va se dire ah oui, peut-être qu'à un moment donné le transport en commun ça pourrait répondre à une partie, ou peut-être pour voir au moins une fois je vais essayer, ou je peux pas, mais en fait je trouve ça quand même chouette et il faut vraiment qu'on trouve des solutions donc il y a cette approche là déjà à avoir, vraiment pas cultiver le clivage mais la discussion. Après, oui, forcément c'est un compromis, mais tout le temps, enfin je veux dire, on en fait dans la vie des compromis avec les autres. Parce qu'on a besoin des autres, parce qu'on n'a pas toujours raison, et que ça nous fait avancer aussi. Donc forcément, il y a des choses qu'on va perdre dans cette discussion-là, mais on peut en gagner aussi quand c'est bien fait. Donc oui, la politique, c'est du rapport de force, c'est aussi l'art du compromis. Et puis si vraiment on ne s'y retrouve pas, moi ça a pu m'arriver parfois de ne pas m'y retrouver, on se met en retrait, et puis on fait autre chose. Le temps de prendre du recul, parce que parfois, on peut manquer de recul. Parfois, on n'est pas d'accord, on ne cautionne pas. Et je crois que ça, par contre, c'est là qu'il faut avoir du courage politique. C'est d'être capable de dire stop à un moment donné quand ça ne va pas. Et de dire non quand on ne suit pas une orientation politique qui n'est pas la nôtre.
Avant de se quitter, Romain, quand même, peut-être un mot sur vos élèves. Est-ce que c'est ce genre de choses que vous leur enseignez aussi à discuter, à échanger, à débattre, à savoir... à la fois exprimer ses idées, mais aussi écouter celles des autres et puis trouver une forme de compromis. Est-ce que c'est des choses qu'on véhicule quand on est militant, qu'on fait de la politique et qu'on est aussi enseignant ?
Forcément, c'est des valeurs qu'on retrouve dans les programmes de l'éducation nationale, d'ailleurs, globalement. C'est de la citoyenneté, finalement. Donc oui, j'ai déjà un métier, moi, qui me passionne depuis le début et je suis loin d'en avoir fait le tour et qui est très, très riche, qui nous laisse encore des marges de manœuvre dans les projets qu'on peut développer. Moi, en fait, c'est ça qui m'anime en politique, comme dans mon métier d'enseignant, c'est que c'est une culture de projet. C'est mener des projets pour une ville et avec une classe, c'est mener des projets avec des élèves, des êtres en devenir, des citoyens en devenir, pour les accompagner sur ce chemin-là et leur faire découvrir un certain nombre de choses. Donc voilà, cette année, par exemple, on a travaillé sur un court-métrage. Une année précédente, c'était une correspondance ou du travail en street art. Enfin, il y a plein de façons sur la culture, sur la citoyenneté, de s'ouvrir au monde, le voyage aussi, et ça c'est hyper important.
Et ben avant de se quitter, je vous laisse un dernier mot si vous le souhaitez pour évoquer que ce soit un combat, une idée, peut-être un conseil aussi à de jeunes personnes qui peuvent nous écouter ou des personnes qui hésitent à franchir le pas de l'engagement, que ce soit citoyen ou même politique.
Si j'avais un conseil à donner, c'est déjà de ne pas se mettre de barrières, de tenter des choses. Et puis après, on fait le point, voir si ça nous correspond, ça ne nous correspond pas. Mais en tout cas, de ne pas s'empêcher d'investir le champ politique, parce qu'au-delà des chapelles, c'est quand même, moi je trouve aujourd'hui, c'est le carrefour de... C'est le carrefour de notre société dans le sens où c'est hyper riche. On rencontre des gens qui viennent de partout, de tous les secteurs, qui ont plein de passions qui sont différentes. Enfin, moi, je trouve ça hyper large et très, très riche. Donc cet engagement-là, citoyen globalement, tous ceux qui ont envie de le faire, je les invite à rejoindre parce qu'on a vraiment besoin de ça aujourd'hui pour faire société.
Merci. Romain Lavaux, candidat à la gauche pour les élections municipales d'Angers en mars 2026. Endegavinus politicus.